Deuxième dimanche de carême. Déjà. Dimanche prochain, on est à la mi-carême. Et nous fêtons Saint Grégoire Palamas, auquel ce deuxième dimanche est consacré. Et pourquoi Saint Grégoire Palamas? C'est en quelque sorte une manière de marquer l'approfondissement de la fête du dimanche dernier. Dimanche dernier, dimanche de la victoire de l'orthodoxie, de la vénération des icônes contre ceux qui nous ont empêchés de le faire. Et là, c'est une extension de la fête de dimanche dernier. La fête de du triomphe de l'orthodoxie montrait que les énergies divines, que la grâce de Dieu se communiquait aux objets matériels sacrés, comme les icônes, si bien que quand on vénère les icônes, on vénère celui qui est représenté sur cette icône. Mais nous savons par ailleurs que la véritable icône de Dieu, qui n'empêche pas que les autres sont aussi des icônes véritables, mais que la plus belle icône de Dieu, c'est l'homme. Ça ne se voit pas toujours. Je pense que il faut inclure dans l'homme les femmes aussi, je crois. Pourquoi cette extension? Parce que de même que les icônes peuvent recevoir être remplies des énergies divines qui les sanctifient, de la même manière, l'homme, nature créée, peut aussi recevoir le fruit des énergies divines et ce qui l'amène à la transfiguration. Or, recevoir les énergies divines avancer, cheminer dans le but d'une transfiguration qui ne se réalise pas toujours de notre vivant, c'est ça justement que symbolise et auquel nous prépare le carême que nous vivons actuellement. Le but du carême, c'est d'accéder à la rencontre avec Dieu, rencontre dont il est l'initiateur, mais dont nous sommes les bénéficiaires, si du moins nous nous préparons, chacun à sa manière, à cette réalité. Cette réalité, pour nous, est vraiment la résurrection, pas seulement la résurrection du corps, mais le dépassement de notre condition humaine pour en arriver à l'acquisition de la condition divine. C'est ça la sainteté, devenir Dieu par grâce, pas par nature bien sûr, mais devenir Dieu par la grâce. Et nous fêtons Saint Grégoire Palamas parce que au XIVe siècle, ce saint évêque a développé une théologie, enfin, ou du moins, il a développé la théologie existante, il a explicité, et en montrant, contrairement à ce qu'on enseigne dans les théologies issues de la philosophie aristotélicienne, que si l'essence de Dieu est inaccessible et invisible et imparticipable, Il y a cependant en Dieu quelque chose qui s'ennuie à l'unité divine, se transmet aux hommes et à la création. C'est ce qu'il appelle les énergies divines, les énergies incréées. Incréées parce que justement, contrairement à la doctrine de la grâce développée par le bienheureux Augustin ou par Thomas d'Aquin, où la grâce est une création de Dieu, une création de Dieu qu'il octroie aux hommes, les énergies divines dans l'orthodoxie, selon Saint Grégoire Palamas et selon l'orthodoxie qui s'est retrouvée dans cette doctrine-là, c'est la vie même de Dieu, non pas dans son essence, mais dans ce qui fait, qui le rend participable. Il a montré, Saint Grégoire a montré, que lorsque les apôtres, les trois disciples, ont été sur le mont Tabor et ont vu le Christ transfiguré, la lumière qui les enveloppait tous, le Christ, les deux prophètes et les apôtres, dans une nuée lumineuse, cette nuée lumineuse, c'était les énergies divines, la lumière incréée, la lumière du mont Tabor, qu'un peu pompeusement on appelle la lumière taborique. Pompeusement, enfin tout à fait simplement, en même temps, quand je dis pompeusement, parce qu'on n'est pas habitué dans le vocabulaire de tous les jours à en parler. Cependant, ce n'est pas un terme extraordinaire. La réalité l'est, par contre. Et j'en viens, voilà ce que Saint Grégoire a montré. Il a montré que, à travers l'effort de l'homme, l'effort de se dépouiller de l'aspect trop matériel, trop humain de son être, l'homme pouvait, à travers la 16, à travers la prière et les sacrements, que l'homme pouvait cheminer, se préparer à recevoir ces énergies divines en se dépouillant de ce qui est trop humain. Et ceci est tout à fait le sens même du carême, la raison pour laquelle on fête Saint Grégoire. Mais dans cette fête, pourquoi l'évangile d'aujourd'hui, l'évangile du paralytique qui, ne pouvant accéder au Christ, les porteurs démontent le toit de la terrasse pour faire descendre sur son brancard le paralytique auprès du Christ. Au grand dame, et au grand étonnement et au grand scandale des pharisiens qui ne peuvent pas comprendre que quelqu'un puisse au nom de Dieu remettre les péchés, parce qu'ils refusent justement de voir en Christ, en Jésus, de voir Dieu lui-même. Alors que les porteurs de la civière du paralytique et le paralytique lui-même avaient cet acte de foi, ils voulaient vraiment approcher le Christ. Vous pouvez voir déjà, rien que dans ces images-là, vous pouvez voir l'allusion au carême. Enfin, l'évangile n'est pas une allusion au carême, mais vous voyez comment ça peut s'appliquer au carême. Voilà. Et dans cette scène étonnante, nous pouvons déceler plusieurs signes. D'une part, que la prière et le salut à travers la guérison de ce paralytique, qui est une véritable résurrection, une revivification, cette prière, cette intercession est une œuvre commune. C'est une synergie. C'est pas seulement la prière et la foi du paralytique, c'est la prière de ceux qui l'entourent. C'est déjà la préfiguration, c'est déjà un embryon d'église, d'une assemblée de au minimum 5 hommes, les 4 porteurs et le... Quoi qu'on n'ait pas dit, je crois dans l'évangile qu'il y avait 4 porteurs, enfin, on peut l'imaginer. Et le paralytique, mais c'est déjà l'embryon d'une assemblée, l'embryon d'une église, puisque église et assemblée, c'est la traduction en français du mot grec. Donc c'est par notre entraide, par notre communion les uns avec les autres, en face de Dieu, pour Dieu et en Dieu, c'est ça qui nous permet d'obtenir le miracle. Et quel miracle? Le miracle de la reconstruction, de la reconstitution de l'homme dans sa plénitude, puisque ça passe d'abord dans le miracle que nous connaissons, d'abord par la rémission du péché, qui est l'élément le plus négatif, l'élément qui s'oppose à la nature humaine, et à la suite, en conséquence de ça, la guérison du corps. Dans ce même évangile, nous voyons que le Christ donne une priorité à l'âme. Il guérit d'abord l'âme. Ensuite, éventuellement, il guérit le corps comme signe de la grâce. Mais je ne veux pas dire que ce qui intéresse l'homme et ce qui intéresse Dieu, mais ce qui est fondamental, c'est la guérison de notre âme. Pas tant la guérison de notre corps. La maladie, la souffrance, le handicap peuvent être éventuellement un moyen que Dieu utilise pour notre sanctification. Non pas que ça lui plaise de nous voir souffrir, mais c'est parce que avec cette souffrance et maladie et notre mort, l'homme peut se dépasser lui-même, peut, au lieu de s'enfermer, peut s'ouvrir à la grâce de Dieu et s'offrir à Dieu lui-même pour lui laisser le passage dans son être et le transfigurer. Mais vous voyez, toujours d'après cet évangile, que pour que le miracle ou que la guérison, disons plus exactement, survienne, il faut d'abord, il est nécessaire de montrer, d'exercer un effort. Il faut crever les apparences, aller au-delà des apparences. Dans l'évangile, le Christ est inaccessible. Qu'à Saint-Tienne est inaccessible, et bien comme je veux y aller quand même, on va démonter le toit, puis on va y aller. On dépasse l'impossibilité. Le salut de l'homme est impossible par nous-mêmes, par nos propres forces. Mais il faut que notre foi se manifeste, s'exerce, en croyant que malgré notre paralysie intérieure notamment, que malgré ça, Dieu intervient et nous sauve réellement. Il faut crever les apparences, parce que les apparences nous empêchent d'atteindre ce qui est inaccessible, humainement parlant. Toutes ces choses sont apparemment inaccessibles, mais Dieu, parce qu'il est Dieu et qu'il est créateur, il rend accessible sa vie, il rend accessible la participation à sa vie. Mais la première chose, c'est d'y croire et de se dépouiller suffisamment pour pouvoir appeler, pour pouvoir faire le vide en nous-mêmes, pour que la foi, à travers la foi, ne se vide, se remplisse de la grâce de Dieu. Le but de la vie, le but de la vie chrétienne, le but de toute vie humaine, mais que connaissent ou que reconnaissent les chrétiens, c'est l'accession à cette communion avec Dieu, cet échange de vie où Dieu, par l'incarnation du Fils, a pris l'existence de notre chair, il est devenu ce que nous sommes, pas comme nous sommes, mais véritablement ce que nous sommes, de manière à nous élever à ce qu'il est, c'est-à-dire à nous diviniser. Il ne faut pas avoir peur de dire, même si notre monde occidental rechigne à accepter cette réalité, que la sainteté, c'est la participation à la vie divine. Être saint, c'est devenir Dieu, par grâce, pas par nature. À lui soit la gloire dans les siècles des siècles. Amen. Amen.